saison au théâtre. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Le 4 janvier 1960, Albert Camus se tue dans un accident de la route. Il n'a que 46 ans. Trois jours plus tard, dans France Observateur, Jean-Paul Sartre écrit « Nous étions brouillés, lui et moi. Une brouille, ce n'est rien. Dût-on ne jamais se revoir, tout juste une autre manière de vivre ensemble et sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. Cela ne m'empêchait pas de penser à lui, sentir son regard sur la page du livre, sur le journal qu'il lisait et de me dire « Qu'en dit-il en ce moment ?» Fin de la citation. Le pouvoir du théâtre est tel qu'il fait entendre les morts bien au-delà de leur disparition physique. Ce que Camus nous dit, nous l'entendons en ce moment même au Théâtre du Lucernaire à Paris, où Stéphane-Olivier Bisson adapte et interprète les carnets tenus par l'écrivain de 1935 à 1959. Pendant une heure de représentation se déploie donc sur la scène la figure d'un homme pour qui rien n'allait de soi et qui vivait, pensait, aimait dans l'intranquillité. En cela, et pour reprendre les mots de Sartre, Camus était bel et bien un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Nous ouvrons aujourd'hui en compagnie de Stéphane-Olivier Bisson et à sa lettre C comme Camus, notre encyclopédie en mouvement du théâtre qui se dirigera dans ces dernières minutes vers la scène nationale de Gap. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Comment ? Pourquoi je fais du théâtre ?
Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Bonjour Stéphane-Olivier Bisson.
Bonjour.
Est-ce que vous savez, vous qui pratiquez Camus depuis un certain nombre d'années, puisque vous avez monté Caligula au théâtre et que là vous adaptez et interprétez sous le regard de Bruno Puzulu les fragments des carnets qu'a tenu l'écrivain de 35 à 59, pourquoi Albert Camus était heureux sur une scène de théâtre, sur la scène du théâtre ?
Je crois parce qu'il y avait une notion d'équipe déjà, ce qu'il retrouvait déjà dans le football. Je crois que c'était un monde qui l'isolait, parce qu'il parle beaucoup des boîtes de nuit aussi. Un monde qui l'isolait et qui permettait de se guérir de la vie du dehors. Et il aimait bien se retrancher avec quelques moines, comme il les appelait par dérision affectueuse, les acteurs, les moines, qui s'engagent pour simplement 6 semaines en prévision d'un soir.
Quand vous m'avez dit, parce que c'était en équipe, Stéphane-Olivier Bisson, moi j'ai immédiatement entendu le pendant de ça, c'est-à-dire est-ce qu'il souffrait de la solitude ?
Terriblement. Catherine Camus m'a raconté une histoire qui est absolument dans aucun livre. Elle avait, je crois, 8 ans. Elle a poussé la porte de sa chambre à Lourmarin. Elle est tombée sur son père qui était cassé physiquement en deux sur une chaise et qui a tourné sa tête vers elle, les yeux embués de larmes. Il lui a dit, oubliant qu'il parlait à sa fille, « Je suis seule. »
Ah oui.
Voilà.
Voilà qui marque une petite fille. C'est Catherine Camus qui vous a donné les droits d'adaptation de ces carnets qui n'ont jamais été, pour l'instant, joués sur une scène de théâtre. Donc c'est une première grâce à vous au Théâtre du Lucernaire. Comment est-ce que vous avez obtenu son autorisation, Stéphane-Olivier Bisson ?
On a noué une relation affectueuse et que je crois être amicale depuis plusieurs années. Quand elle m'a accordé les droits de Caligula, j'en étais très heureux. J'ai voulu la rencontrer parce que la femme que j'apercevais sur diverses interviews ou émissions me plaisait, me séduisait. Donc je suis allé la voir pour la remercier. Et puis il se trouve qu'elle habitait à l'époque la maison d'Albert Camus, la maison qu'il a achetée avec le prix du Nobel. Et puis les carnets, je les ai découverts en préparant Caligula, parce que tous les grands hommes de théâtre que j'admire disaient toujours qu'il faut lire toute l'œuvre si on veut ne pas passer à côté d'un nœud, d'une ligne, parce que la solution se trouve peut-être dans un écho ou une résonance ailleurs. Donc voilà, donc je me suis plongé sur les carnets qui m'ont bouleversé, parce que j'avais l'impression de pousser une porte et de trouver l'homme. Enfin. Et alors que dans son écriture de ses autres œuvres, il est vibrant derrière les mots, mais je trouve qu'il est pudique, terriblement pudique vis-à-vis de lui-même. Or là, c'est pas impudique, c'est pas croustillant, mais je tombe sur l'homme à chaque coup.
Mais justement, vous qui connaissez donc toute son œuvre, aussi bien les carnets que le théâtre, que les romans, est-ce que vous constatez une sorte de similitude entre l'écriture des carnets, qui est une écriture de journal intime et journal de travail, l'écriture théâtrale, l'écriture du roman?
Moi, j'ai l'impression qu'il a un complexe terrible vis-à-vis des mots et vis-à-vis du geste d'écrire. Qu'il y a beaucoup de romans où j'ai l'impression qu'il s'impose à lui-même comme une tête, un regard au-dessus de son épaule et qu'il se retourne vers elle en se demandant « est-ce que c'est bien ?» Parce que voilà, parce qu'il a, il a vécu sans les livres, il a vécu sans les mots. Ça a été très tard. Je crois que les premiers livres, ça a dû être peut-être son instituteur Louis Germain et ensuite son oncle Acco, son oncle Boucher, qui était un anarcho-libertaire voltairien, qui avait une bibliothèque incroyable. Il le dit d'ailleurs dans les carnets. Il dit d'abord, il dit qu'il a, au moment du Nobel, il dit qu'il a rien fait
de sa vie, de son œuvre,
de ce qu'il a. Il a rien écrit. Il le pense. Il pense qu'au moment où il écrit le premier homme, il commence enfin à écrire en son nom. D'ailleurs, il le dit dans les carnets. C'est absolument magnifique. Il dit beaucoup « ce que j'ai à dire est plus important que ce que je suis ». Il y a parfois une disjonction, je trouve, entre ce qu'il est, même si ce qu'il est transpire sublimement, et c'est ça qui me bouleverse et qui touche tant de monde. Mais il y a toujours un combat, je trouve, entre l'écriture et lui. Et selon les œuvres, je trouve qu'il se change, qu'il s'impose un style en fonction du propos.
On va entendre, évidemment, la voix d'Albert Camus dans cette émission, Stéphane Olivier Bisson. Premier extrait, il date de 1960, et puisqu'on est dans une émission de théâtre, écoutons-le faire l'apologie du théâtre.
Je donne au théâtre un temps que je refuse avec obstination aux dîners en ville et au monde où l'on s'ennuie. Ce sont des raisons d'homme, bien entendu, mais j'ai aussi des raisons d'artiste, c'est-à-dire plus mystérieuses. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai, que c'est le lieu de l'illusion, mais n'en croyez rien. C'est la société plutôt qui livre d'illusions. Et vous rencontrerez sûrement moins de cabotins à la scène qu'à la ville.
On est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit. Il y a des cabotins aussi sur la scène, oui. Et des illusions au théâtre, et pas que des illusions dans la société. Mais tout de même, quelle est la vérité, vous, de Camus, derrière laquelle vous nous amenez d'une certaine manière sur la scène du Lucernaire, Stéphane Olivier Bisson, ou derrière laquelle vous aimeriez que nous nous rendions?
Ce qui est la grande surprise pour les spectateurs à la création au Théâtre du Chêne Noir l'été dernier à Avignon, c'était de découvrir un Camus à vif, un Camus blessé, déchiré à ce point, isolé, marginalisé aussi, terriblement, parce qu'il a une fortune publique incroyable, on l'a toujours lu beaucoup dans le monde entier. Mais il y a toujours eu des entreprises d'isolement et de marginalisation de lui, politiquement, littérairement, et puis même socialement. Je trouve qu'il y a des gens qui lui ont fait payer de ne pas en être, de ne pas en venir de ce monde-là. Voilà, on lui a fait payer le fait d'être le petit pousse-caillou d'Alger, quoi.
Oui, né pauvre en Algérie, et effectivement, n'appartenant pas à ce qu'on appelle le sérail, au fond.
Non, le français, il l'a appris, pratiquement. Parce que dans la rue, il parlait le patouette, qui était un mix, je crois, de maltais, d'espagnol, d'arabe, de français, d'italien. Et la langue qu'il écrit, il a dû l'apprendre.
Mais vous discernez chez lui quelque chose qui serait de l'ordre de l'amertume ou de l'aigreur? Parce que parfois, on peut se poser un peu la question lorsqu'on voit le spectacle Stéphane-Olivier Bisson. On est face à un homme, finalement, que rien ne semble jamais rendre content, sauf le théâtre.
Ouais.
Effectivement. Où là, il s'épanouit. Où là, le bonheur est total. Sinon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
Oui, parce qu'il s'interroge sans détour. Je pense qu'il prend aucun raccourci. Tous les raccourcis qu'on prend avec les questions fondamentales qui nous écrasent, il n'en prend aucun.
Donc il est frontal,
ouais.
Et lucide.
Et il s'impose
en fait,
ça.
C'est ça.
Ouais, et c'est ça qui, son insatisfaction, elle devrait être la nôtre finalement si on ne se mettait pas autant de masques aimables pour s'arranger avec la réalité.
Oui, mais est-ce que cette insatisfaction finalement ne l'a pas condamné à vivre une vie d'angoisse?
D'angoisse, je sais pas, mais de plaisir aussi. Parce qu'il y a plein d'archives et de photos et de films, y compris de famille, où c'est un immense déconneur, c'est un grand danseur, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup et qui vivait la joie, sans parler de ses amours. L'épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête depuis 17 ans et la tuberculose est quelque chose qu'il, j'allais pas dire non pas qu'il a aimé, évidemment pas, mais avec lequel il a traité pour accélérer ses désirs.
C'est pour ça que vous avez voulu faire apparaître dans la construction de ce spectacle, dont on va parler, Stéphane-Olivier Bisson, l'amoureux du foot qui a eu sur le foot d'ailleurs de célèbres déclarations. Bon, aujourd'hui, tout le monde s'empare pour dire, voyez, Camus aimait le foot, donc on a le droit d'aimer le foot. Hein.
Oui, oui, non, mais le foot est une métaphore de ce qu'il a toujours regretté, d'une espèce d'âge d'or envolé, mais qu'il retrouvait au théâtre, pour le coup.
Cette construction, lorsque j'ai vu le spectacle, m'a fait penser, au fond, à une somme d'îles, des petites îles qui seraient éparses dans un océan et qui disent la totalité de l'océan.
C'est absolument en fait. Magnifique.
Et en fait, j'ai lu que vous n'aviez pas procédé de manière chronologique, vous n'aviez pas procédé de manière thématique, ce qui aurait pu être le cas, hein, à la lecture des carnets qui font tout de même 947 pages. Ouais. Donc, il y a chez vous un vrai choix et un vrai parti pris. Vous êtes allé, d'ailleurs, c'est une idée de Catherine Camus, oui, de lieu en lieu.
Oui, la clé, c'est elle. C'est elle qui m'a donné la clé, qui a tout éclairci, qui a éclairci tout le montage. Il y a eu, je sais pas quoi, 37 versions. Enfin, c'était très laborieux. Si vous faites un montage chronologique, il y a, tous les thèmes se répètent. Si vous faites un montage thématique, il n'y a pas de tension dramaturgique. Donc, vous piétinez. Et Catherine m'a dit, regarde la géographie. Et la géographie a aimanté et les lieux et les thèmes.
Et cette géographie, donc, c'est quoi?
On commence par Alger, ensuite la transplantation, parce qu'il est contraint et forcé de quitter Alger parce qu'il a écrit Misère en Kabylie et que ça plaît pas du tout au maire d'Alger qui est d'extrême droite, mussolinien, et qui le chasse, qui dit vous n'aurez plus de travail ici. Donc il arrive à Paris, contraint et forcé, et d'où aussi le choix du costume. Je veux pas incarner Camus, je suis pas Camus, je me prends pour le texte, certes, mais j'ai pas l'impression de jouer grand-chose. En fait, je me laisse travailler par ces mots-là, qui ont des résonances en plus personnelles considérables, mais comme pour plein de lecteurs de Camus, ça n'est pas exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai choisi le costume de... je l'ai volé, en fait, à Mastroianni, dans l'adaptation de Visconti de l'étranger. Parce que je voulais un type du Sud transplanté, malgré lui, dans le Nord, mais qui garde ses habits du Sud, un pantalon beige, une veste marron, et puis une cravate noire. Petit employé de bureau qui va voir sa mère à l'hôpital et qui met ses habits du dimanche.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
En 1959, Stéphane-Olivier Bisson, la pièce Les Possédés, adaptée de Dostoïevski par Camus, était créée au Théâtre Antoine à Paris. Durée de la représentation 3h15, ce qui en inquiétait, sans la troubler réellement, Simone Berriot, la patronne du Théâtre Antoine.
Pas courageux en soi de monter Les Possédés, surtout pas de monter une pièce de Camus que j'attends déjà depuis des années, car j'ai eu ici beaucoup d'auteurs, évidemment Camus n'était pas venu. Alors voilà, nous montons Les Possédés. C'est une entreprise très difficile, en effet, très coûteuse aussi, qui va exiger tout de même du public un peu de patience. D'abord, il faut lui demander de venir à 8h du soir.
Ça sera difficile.
Oui, bien sûr. Et puis, enfin, j'ai tout de même été très gâtée, parce que tout de même, souhaitant une pièce de M. Camus, il m'a apporté une pièce qui dure 3h15.
Mais c'est une pièce et demie.
C'est merveilleux, je suis très gâtée. D'ailleurs, je suis persuadée que aussi bien le public du Théâtre Antoine, qui m'est très fidèle, que tout le public d'ailleurs, sera très gâté et sera ravi.
Ravi, le public du Théâtre Antoine l'a très certainement été. Ce qui est sûr aussi, c'est que la pièce connaît une postérité durable, que le texte passionne la jeune génération contemporaine, sans doute à cause de son caractère prophétique dont nous parle justement Albert Camus.
Je pense que c'est un livre prophétique, car ce... nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses était pour Dostoïevski un des thèmes centrales de son angoisse personnelle. Il en décelait les signes dans son époque et il n'y a pas de doute qu'à cet égard Les Possédés sont un livre bien plus prophétique que d'autres qui passent pour tels.
Pensez-vous que parce que c'est un livre prophétique, c'est un livre d'actualité?
Très certainement, la prophétie finit toujours par devenir actualité.
Mais en ce moment même?
En ce moment même, exactement. Il n'y a pas de doute que les personnages qui sont mis en scène par Dostoïevski dans Les Possédés sont des personnages qui sont infiniment plus près de nous qu'on ne pourrait le penser à première vue.
En quoi?
En ceci que le vide du cœur, l'impossibilité d'adhérer à une foi ou à une croyance quelconque, qui étaient déjà des prémonitions dans l'univers de Dostoïevski, sont devenues des réalités aujourd'hui.
Est-ce pour cette raison que vous avez adapté Les Possédés?
C'est un peu pour cette raison, mais c'est aussi parce que j'aime le théâtre ça m'amuse de monter un spectacle de cette envergure.
Enfin, ce nihilisme est une des raisons.
Certainement, c'est une des préoccupations que je partage, toute proportion gardée, avec Dostoïevski.
Voilà la voix d'Albert Camus, enregistrée en 1959, interviewée par Pierre Dumayet. On aura envie de l'entendre aujourd'hui, hein, Camus, sur ce qui se passe en Algérie. Et aussi à rebours, lorsqu'il parle de cette impossibilité d'adhérer à une foi ou à une croyance. Mmh. Et également sur ce qui se passe dans certains pays du monde. Et voir ce qu'il en dit, voir comment il analyse tout ça. Est-ce que, justement... Dans votre conscience, à vous, c'est quelqu'un qui apparaît comme étant un maître à penser, Stéphane-Olivier Bisson, ou pas ?
Oh, je crois que le mot maître lui filerait un urticaire. Mmh. Non, maître, je ne cherche pas un maître. Non, il y a des résonances personnelles, particulières, affectives, sensibles. Il m'est immédiatement proche. C'est ça le miracle de cet auteur, je trouve, quand on le découvre, c'est qu'il vous est immédiatement... Enfin, il y a une proximité sensible et presque sensuelle totale et immédiate. Et, après, sur la religion, par exemple, dont vous parliez, il était fasciné par la figure du Christ, par exemple. Il a une phrase magnifique sur l'Église, il dit « Dieu est mort, certes, mais on connaît le coupable, c'est l'Église ». J'aime beaucoup ça.
Vous dites que vous vous sentez proche de lui ou qu'il est proche de vous, Stéphane-Olivier Bisson. Est-ce que vous diriez que sa philosophie est accessible ?
Ah oui.
Oui.
Oui, je trouve, ouais. Je pense que des lycéens ou des collégiens, peut-être un peu tôt, mais des lycéens peuvent lire Mythe de Sisyphe ou L'homme révolté, c'est un peu plus ardu, non pas parce que c'est hermétique, mais parce que ça part un peu dans tous les sens. La construction, elle est un peu parfois anarchique, mais oui. Oui,
mais cette philosophie, elle est dans ses textes de théâtre, parce que finalement, il a pas écrit tant de pièces que ça, hein. Il a écrit Le Malentendu, Caligula, que vous avez monté, Les Justes, L'État de siège, qui a été mis en scène par Emmanuel de Marcimota il y a 2 ans ou 3 ans, Les Possédés. Finalement, c'est pas beaucoup de pièces de théâtre. Et il est auteur de théâtre. Il apparaît comme étant un auteur de théâtre total, hein, aux yeux du 21e siècle.
Parce que c'est un praticien, parce que c'est un chef de troupe, parce que c'est un metteur en scène, parce que c'est un acteur. Donc c'est quelqu'un, quand il écrit pour le théâtre, il sait très bien ce qu'il a en tête et ce qu'il peut tenir debout sur des planches, quoi. C'est un vrai homme de théâtre, vous voyez. C'est pas, moi, je déteste la caricature dont on sert pour enfermer le théâtre de Camus dans la naphtaline en disant c'est la philosophie en pourpre. Bah, je trouve pas, non, je trouve que c'est comme une philosophie nietzschéenne, quoi, c'est une philosophie en mouvement. Quand il pense, lui, il sauve sa peau. Ce qui est vachement différent que de penser, de manier des concepts dans un bureau et puis de lâcher des bombes à distance, quoi.
Mais ce qu'il y a peut-être aussi qui est dans l'œuvre de Camus, l'œuvre théâtrale, et qui justifie le fait qu'aujourd'hui il soit mis en scène, parce que Stanislas Nordet aussi a mis en scène Les Justes il y a quelques années. Les Possédés, c'est une pièce qui est retravaillée par la jeune génération, je le disais, mais peut-être que Camus est quelqu'un qui justement arrive à concilier pensée, philosophie et théâtralité, chose qui est, on le sait, extrêmement compliquée.
C'est difficile, mais c'est naturel quand on est un poète. Mmh. Et je crois qu'on dit jamais assez que Camus est un poète. Si on lit Noce et l'été, c'est un poète, c'est évident. Et dans Caligula, il y a des fragments qui sont tombés de la lune, tant ils sont sublimes.
Vous diriez, Stéphane-Olivier Bisson, que Camus est un poète et que Sartre, lui, n'était pas un poète ?
Oh là là, je suis pas venu pour casser du sucre sur Sartre ici. Mais juste, puisque vous m'ouvrez la porte, il y a juste la phrase que vous avez citée au tout début, l'hommage posthume, qui est très beau, qui est très bien écrit et qu'on croirait presque sensible. Sauf qu'il y a une phrase en 72 qui confie à un journaliste américain, quand on lui parle de Camus, que je trouve absolument lamentable et insultante, où il dit au fond, Camus c'était quoi ? Un petit truand d'Alger qui aurait dû écrire des polars, qui a fait ce qu'il a fait finalement, c'est-à-dire rien.
En même temps, dans les carnets de Camus, on peut lire sous la plume de Camus que Sartre est une ordure.
Là, j'ai pas commencé. Donc... Ah ben, je comprends. Après Brochier et Janson, oui, je comprends qu'on puisse se penser, oui.
Bon, on parle de Sartre, on l'écoute.
Alors, Camus, il n'aimait pas un certain cynisme culturel que j'ai toujours vu vis-à-vis des valeurs. Il était très pauvre et fils d'une mère qui ne peut pas lire. Donc il a acquis la culture en même temps qu'il montait. Tandis que moi j'étais grand petit-fils de professeur, la culture je l'ai eue à 2 ans, à 1 an, c'est à ce moment-là. Et ça marque, je crois, notre différence. C'est-à-dire que je suis bourgeois. Ben moi je suis un héritier, et lui n'était pas.
Voilà, il y a quand même chez Sartre une grande lucidité. Camus n'aimait pas le cynisme culturel. Oui. Sa mère ne savait pas lire, il était très pauvre. Il a acquis la culture en même temps qu'il montait. Et Sartre le dit, moi je suis un héritier, je suis un petit bourgeois. Cette rivalité entre les deux hommes. Et au fond, quand même, ce que dit Sartre au début, ce dialogue même au-delà du silence, a marqué le XXe siècle. On ne trouve plus ça aujourd'hui. Non. Deux figures aussi emblématiques, aussi fortes, aussi iconiques, Stéphane-Olivier Bisson.
Puis c'est une amitié déçue, parce qu'ils ont été amis longtemps. jusqu'en 50-51, je crois, l'homme révolté, il me semble que c'est ça. C'est une longue histoire, elle est complexe, il y a eu des aléas. J'ai pas envie de ranger des églises, quoi, de me ranger dans une église ou dans l'autre. Après, ça m'embête de parler de Camus en m'astreignant à taper comme un sourd sur Sartre. Je préfère parler de Camus.
Mais justement, pour rebondir sur ce que dit Sartre, sur l'origine sociale, moi j'entends ça, je pense par exemple à quelqu'un aujourd'hui comme Édouard Louis, qui est un auteur qui fait de la lutte sociale le moteur de son écriture, un des moteurs de son écriture. Il travaille sur le déclassement, il travaille sur les origines, et il en fait, voilà, littérature. Vous pensez que Camus, il a bâti son œuvre à partir de ça, à partir de cette naissance en Algérie, à partir de cette mère qui ne savait pas lire, et dont il a pu dire, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Ouais. Là aussi, phrase qui a été beaucoup détournée, manipulée.
Parce qu'on dit jamais la première partie. C'est comme la phrase de Rocard. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. On dit jamais elle doit en prendre sa part. Là, c'est pareil. Il dit si la justice, votre justice, c'est mettre des bombes dans les bus, alors votre, je sais pas, la justice immanente, absolue, notion, quoi. C'est pas la notion, je suis pas contre la notion de justice. C'est que je suis contre cet usage-là de la justice. C'est tout. Mais oui, bien sûr, mais dès l'envers et l'endroit, ses origines, la mère, il en parle, c'est le tout début. Et puis, le grand regret, c'est que le dernier cycle qu'il ouvrait avec le premier homme, c'était le cycle de l'amour, qui a été apparemment déclenché par la vision de la tombe de son père, où il se rend compte qu'il est plus vieux que lui, et qu'il se dit, mais au fond, l'histoire de ces gens dont on dit qu'ils n'ont pas d'histoire, c'est laquelle, c'est quoi? Personne ne l'a raconté, je vais la dire. Il était dans un regain magnifique, contrairement à l'époque où il reçoit le Nobel, où il est au creux, il n'arrive plus à écrire, il est dans un état de dépression terrible. Bah, au moment où il entame le dernier cycle, qu'il appelle donc le cycle de l'amour, il est solaire. Et c'est cette histoire-là des siens qu'il aurait raconté complètement. Et je pense qu'il l'aurait fait. Je pense qu'il aurait fait un état des lieux sur lui au milieu de la guerre d'Algérie aussi.
Là, vous parlez du Nobel, vous y consacrez plusieurs minutes sur la scène du Lucernaire, Stéphane-Olivier Bisson, et vous faites affleurer dans le spectacle ce qui est présent dans les carnets, c'est-à-dire effectivement cette obsession de la mort, la conscience de la mort à venir qui le taraude, qui peut le coucher par terre, qui peut le mettre au lit et le retirer de la société des hommes pour
Bien
le coup.
À 17 ans, on est dans les années 30, on lui dit « vous avez la tuberculose ». Et dans les années 30, il n'y a pas les antibiotiques qui arrivent je crois, après 45, et vous êtes condamné. Et à plus ou moins brève échéance, votre vie sera courte. Et ça conditionne tout. C'est pour ça on dit son rapport aux femmes, etc. Mais ça conditionne son rapport à l'amour, bien sûr, son rapport à l'instant, au présent, tout.
En 1973, Stéphane-Olivier Bisson va faire un petit détour. Mais qui va nous y ramener, Albert Camus? Vous allez voir, il y a un homme qui venait au micro de France Culture pour expliquer avec beaucoup d'humour de quelle manière il avait cheminé vers le théâtre. Son cheminement était passé notamment par Albert Camus. J'aimerais qu'on termine notre émission par cette évocation. Cet homme, c'était votre père, l'homme de théâtre Jean-Pierre Bisson, auteur d'une pièce qui a fait date, qui s'appelait Sarcelles sur mer.
Alors, je m'appelle Jean-Pierre Bisson, comme l'auteur. Je suis né à Charenton, ce qui n'est pas un hasard non plus. Et mes études ont été rapides, puisque j'ai terminé instituteur et j'ai exercé pendant 6 mois. Après, j'ai été reporter photographe, j'ai exercé pendant 8 mois, et après j'ai été à l'armée, où j'ai exercé pendant 18 mois, et en rentrant, j'ai décidé que finalement j'avais une autre vocation, j'ai commencé à rentrer dans un cours de théâtre, enfin, en ayant monté quand même les Justes d'une façon tout à fait anonyme, les Justes de Camus, et je suis rentré au cours du Lin, parce que pour moi ça formait un mythe par rapport à Dulin, à Villard, enfin c'était à côté du TNP, et j'étais bien sûr en étant là que je l'ai remarqué, ce qui ne s'est pas produit immédiatement, je dois dire, puisque ça fait ça 6 ans et que c'est peut-être la première fois qu'on m'interview cette année. J'ai un peu tenu des hallebardes au TNP, et comme j'ai vu que décidément George Wilson n'allait pas me confier le grand rôle dont je rêvais, j'ai décidé d'écrire mes propres pièces.
Et là, on a été obligé un peu d'arrêter votre papa, qui parlait pour la première fois à la radio, mais qui était parti pour une très longue explication de ses débuts dans le théâtre. Un père qui met en scène les Justes, qui a fait du théâtre sa vie. C'est un père qui ouvre la voie à son fils, Stéphane-Olivier Bisson.
En fait, il a rien ouvert du tout, parce que j'ai appris à 22 ans que mon papa adoptif, qui est merveilleux, n'était pas mon père naturel, et que mon père naturel, c'était lui. Et donc, à l'école de théâtre, on me disait « arrête d'imiter Bisson ». Je dis « ah, ça va, j'aime bien cet acteur, mais arrête ». puis c'était mon père.
D'accord, non, ok. Alors là, je ne savais pas qu'on mettait le...
Non, non, là, il y avait un sacré loup, mais tout va bien, c'est mon histoire. Et voilà, donc je faisais déjà du théâtre avant de... Et j'ignorais que ma mère était actrice aussi, parce qu'ils se sont rencontrés au TNP, ils ont joué L'Échange tous les deux. Et quand on lit L'Échange, quand on relit L'Échange à l'aune de leur histoire, c'est fou. On se demande qui a écrit quoi, si c'est Claudel ou Jean-Pierre. Voilà.
Moi, je trouve qu'il y a dans ce que dit votre père, que vous n'avez connu donc qu'à l'âge de 22 ans, dont vous n'avez su qu'il était votre père qu'à l'âge de 22 ans, comme, au fond, dans ce qu'on voit sur la scène du Lucernaire, quelque chose qui ressemble à une phrase que j'ai lue dans les carnets, que j'aime beaucoup, j'aimerais qu'on termine là-dessus. À un moment donné, Albert Camus écrit « La tragédie n'est pas une solution ». Je trouve ça magnifique, Stéphane-Olivier Bisson.
Oui, ce qu'il y a peut-être de commun chez Camus et chez Jean-Pierre Bisson, c'est la manière de contrer ce qui peut les asphyxier. Il le contre avec une énergie presque enfantine. Et ça, je trouve ça magnifique.
Mais je crois que vous l'avez aussi en commun, non?
J'espère.
Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Olivier Bisson, d'être passé nous voir dans Une saison au théâtre.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras. Toi,
chers amis auditeurs, vous l'aurez compris, nous vous recommandons chaleureusement ce spectacle que joue, qu'a adapté Stéphane-Olivier Bisson au Théâtre du Lucernaire à Paris, Les Carnets d'Albert Camus, mise en scène donc sous le regard éclairé de Bruno Puzulu, et ça se joue jusqu'au 4 mai. Quant à nous, nous restons ensemble, nous prenons la direction de la scène nationale de Gap, où nous attend au téléphone le directeur Philippe Ariagno, qui n'hésite pas, il va nous le raconter, à quitter les murs de son théâtre pour amener son public en pleine nature pour un festival qui s'intitule « Tous dehors enfin ».
Les arts dans l'espace public, les arts hors les murs font partie évidemment des choses importantes de la création d'aujourd'hui en France, donc ça me paraissait important aussi de jouer cette carte, même si c'est compliqué, puisque quand on est à l'extérieur c'est souvent gratuit, etc., et les problèmes financiers. Donc il y avait d'abord créer une dynamique dedans-dehors, se dire que finalement ouvrir en grand les portes et les fenêtres de ce théâtre, pour que les gens aient peut-être moins d'inhibition à rentrer dans ce théâtre. Ça se traduit par Tous dehors enfin, qui est en fait un festival qui dure 3 jours et qui attire déjà après 7 ans 30 000 spectateurs, donc on a touché des gens qui, à 65%, 70% de ces gens qui viennent dans le festival ne vont pas à la passerelle, ne poussent pas les portes de ce théâtre. Alors dans les Hautes-Alpes, on est dans un lieu absolument incroyable, hein, avec une beauté d'espace naturel, et l'idée c'était de passer commande à des artistes d'un geste artistique et poétique en lien avec ces espaces naturels. Donc on invite d'abord des artistes dans une mission de repérage, et on les balade sur les crêtes, au bord des lacs, dans les forêts, au fond des gorges, et ils choisissent l'endroit avec une consigne qui est importante pour nous, qui n'est pas juste mettre du théâtre à l'extérieur ou de la danse à l'extérieur, mais de vraiment trouver ce point de résonance, qui est pour moi l'endroit où le geste artistique va être sublimé évidemment par le cadre magnifique dans lequel il se pose, et qu'en même temps cet espace naturel, cet écrin naturel dans lequel il est posé, est sublimé par un geste artistique et poétique. Donc évidemment, ça intrigue les gens d'avoir un geste artistique comme ça, posé au milieu de la montagne, et on a des exemples qui sont quand même assez phénoménales. Par exemple, de la musique contemporaine à 1700 mètres d'altitude à 6h30 du matin au lever du soleil, et on a plus de 200 personnes qui viennent avec leur frontal, leur petit sac à dos, etc., et qui vivent, j'allais dire, pas forcément un spectacle, ça se passe pas tout à fait à cet endroit-là.
Ouais, c'est au-delà,
plutôt vivre une expérience sur un territoire qu'ils connaissent, mais par un prisme artistique, par un prisme poétique, qui évidemment décale leur façon déjà d'être sur ce territoire. C'est une bataille très très longue, et il faut convaincre, et surtout que les publics soient au rendez-vous, ce qui est le cas, donc ça facilite les choses quand même.
Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médec, Paris d'encre et d'exil, je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville, Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier, je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais.
Vous pouvez même, vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer, je t'écris des poèmes ou des fois je veux me noyer.
Florent Bujon, Chouchane Gergaillan, Valentin Henry, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue, bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de Cause à Effet. Excellent dimanche à vous tous.
Aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés, des chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée, caravane d'apatrides, beau pipo.
Paul Caravelle. Sur tes frontons, Paris vient lire l'universel. Et souvent, je t'en veux, dédaigneuse et hautaine. Capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris, ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris, ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris, ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un.